Bien, alors lorsque Anne-Marie m'a proposé il y a environ 3 mois par téléphone cette intervention, comme il y avait le terme professionnalisation sur lequel j'ai déjà travaillé, j'ai accepté sans faire trop attention. Et en la préparant hier, je me suis aperçu que celle qui me l'avait proposé, Anne-Marie, était au moins sur un point du titre La formation des enseignants du métier à la professionnalisation était au moins sur le point du métier et puis aussi sur le premier point, la formation des enseignants dont elle est une praticienne depuis très longtemps, alors que moi-même je l'ai très peu fait, elle était beaucoup plus compétente que moi. D'ailleurs, n'a-t-elle pas écrit dans la revue Esprit en 1991 en quoi instruire est un métier. Pour ma part, j'ai peu travaillé, pour ne pas dire pas, sur la notion de métier, mais beaucoup plus sur celle de profession et de professionnalisation. Mais pour éclairer, peut-être un peu mieux comprendre nos différences d'approche, il est sans doute utile de s'arrêter sur une période particulière, qui a été celle de la création des IUFM, où il y a eu un changement de vocabulaire concernant la formation des enseignants. Mais avant, ensuite, en trois points au moins, on pourrait y en avoir plus, mais le temps nous est compté, en trois points au moins, j'évoquerai les problèmes liés à la professionnalisation des formations. Mais avant tout cela, selon une habitude que j'ai prise, peut-être à cause de la rubrique autour des mots dans la revue Recherche et Formation, je vais commencer par les problèmes de vocabulaire, par les mots. Alors, ceci peut un peu surprendre lorsqu'on se prétend sociologue et non philologue. Mais on le sait et on le constatera aisément, y compris dans notre domaine, que les mots sont porteurs d'intérêts sociaux, divers. Du coup, ils prennent des sens multiples, que l'on doit s'efforcer d'éclaircir, même lorsque l'on est sociologue et non philologue. Ainsi, l'un des mots centraux de mon intervention ce matin, le mot de professionnalisation, a pris des sens très divers selon l'objet auquel on l'applique et surtout selon les acteurs qui en parlent. Aussi, il me semble que ce n'est pas faire preuve d'une passion lexicologique déplacée que ni s'éloigner beaucoup de la sociologie, à vrai dire, que de distribuer les sens, de repérer les acteurs porteurs de ces sens et de démêler autant qu'il est possible les intérêts. Beaucoup d'incompréhensions, de querelles et même parfois de désordres peuvent venir des sens différents que l'on donne au mot de la tribu. C'est ce que, d'une manière assez autoritaire, selon la tradition de ce pays, affirmait un empereur chinois lorsqu'il déclarait « Fixons le sens des mots et l'empire sera en ordre ». Presque deux millénaires après, un professeur au Collège de France, dans sa leçon introductive, exprimait d'une manière, avec un vocabulaire assez différent, mais la même idée, la langue est fasciste. Elle nous contraint à penser d'une certaine manière. Ce professeur, c'était Roland Barthes. Tous deux avaient raison sur le diagnostic. Il différait sur le remède. Pour Roland Barthes, le remède, c'était la littérature qui recrée la langue. Pour l'empereur, on pourrait dire que le remède, c'était la langue de bois qui fixe et fossilise la langue et officialise la langue. L'empereur avait certainement tort quant au remède. Quant à Roland Barthes, c'est une certaine conception du remède. À vrai dire, il est impossible de fixer la langue. Il est aussi impossible, heureusement, de fixer son renouvellement à la seule littérature. la langue bouge comme la société elle-même et manifeste d'une certaine manière la créativité de la société à travers l'évolution des sens qui sont donnés aux mots. On peut au moins s'efforcer de repérer ces différents sens et leur évolution, et ceci, on l'espère, peut augmenter l'intercompréhension et nous apprendre beaucoup sur le phénomène qui nous intéresse. Alors, puisqu'on va commencer par le mot le plus ancien, le mot métier. Mot qui est apparu au Xe siècle, qui vient du latin ministerium, qui veut dire serviteur, qui désigne la fonction de serviteur. Ministerium est lié à minus, c'est-à-dire un moindre, petit. Ça n'est pas. On peut être serviteur de statut plus ou moins grand. Être serviteur de Dieu, ce qui a été un des principaux emplois du terme à travers le ministère de Dieu, est certes plus important que d'être serviteur de faire le métier de chaussetier, par exemple. Mais dans le cas, il y a cette connotation minorante. Au XIIe siècle déjà, de nombreuses activités qui exigent quelques connaissances spécifiques sont appelées métiers. Et apparaît l'expression, en 1180, de gens de métier. En 1316 apparaît le terme de métier pour désigner les corporations. Vers le XVe siècle, ce terme de métier, les corporations, c'était quelque chose de très vaste. Une des corporations qui a le mieux survécu, c'est l'université elle-même. Universitas, au XIIe siècle, ça désignait un type de corporation, parmi lesquelles il y avait la corporation des gens qui vendaient leurs services d'enseignement, qui avaient depuis relativement peu de temps le droit de vendre leurs services d'enseignement, qui était ce qui est devenu les universités, et qui se sont appropriés le mot. Bon, mais là, le terme métier s'est restreint, à partir du XVe siècle, aux artisans, et aux ouvriers, aux travaux manuels. C'est cette même appellation, cette même compréhension que l'on trouve par exemple dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, qui définit ce métier ainsi: toute occupation qui exige l'emploi des bras et qui se borne à un certain nombre d'opérations mécaniques qui ont pour but un même ouvrage que l'ouvrier répète sans cesse. Dans le littré, c'est le premier sens qui est donné, exercice d'un art mécanique. Ce premier sens est toujours présent aujourd'hui, et vous le trouverez dans le Petit Robert, comme premier sens. Il déclare « genre d'occupation manuelle ou technique qui a son utilité dans la société ». Et il lit cela à art et industrie, corps de métier notamment. Le deuxième sens, c'est un sens beaucoup plus général, tout genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société, vous voyez, on peut gagner son argent de différentes manières, mais dont on peut tirer ses moyens d'existence. Autrement dit, un métier, c'est tout travail rémunéré. Je reviendrai tout à l'heure sur cette définition lorsque je parlerai de profession. Et le troisième sens, c'est habileté technique, manuelle ou intellectuelle que confère l'expérience. Le métier, c'est quelque chose qui s'acquiert par l'expérience. Ceci veut dire que ça ne s'acquiert pas par la formation. Ce qui s'acquiert par la formation, c'est la qualification. Le métier, c'est avec l'expérience. Pendant le temps de formation, on peut acquérir une certaine expérience, mais elle est minime. Et le métier, lorsqu'on dit que quelqu'un a du métier, c'est lorsqu'il a beaucoup d'expérience. La formation, d'une certaine manière, même si elle y est introduite, ne suffit pas à faire acquérir complètement le métier, à donner du métier. Et l'acquisition par expérience, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Tout ce que, depuis quelques années, l'on arrive à faire, c'est à certifier les acquis de l'expérience. Quant à la manière dont est acquis l'expérience, elle est trop multiple, trop diverse et trop individuelle pour que on puisse l'expliciter. L'expérience, c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, s'oppose à la formation, qui est un processus relativement ciblé, explicite, construit, alors que ce que l'on acquiert, c'est le plus important, ce que l'on acquiert par expérience, qui est le plus important, ben, s'acquiert de 36 manières. Voilà ce que, très rapidement, je pourrais dire du métier. Quant à la profession, il y a trois sens. Profession de foi, c'est-à-dire déclaration publique de ses croyances. C'est le premier sens que vous trouverez dans le Robert, c'est le premier sens historique. C'est l'acte par lequel un religieux prononce ses vœux et devient professe. Le deuxième sens, c'est métier. Il est apparu vers 1400. C'est le passage, c'est précisément ce qui a permis le passage entre deux sens. C'est pour entrer dans une ce qui a permis le passage au sens actuel. Pour entrer dans une corporation, il fallait prononcer des vœux, faire des serments. Il y avait même des corporations que l'on appelait les jurandes. Il fallait d'abord jurer d'obéir aux règles de la corporation, de non-concurrence, etc. Essentiellement de non-concurrence. Les codes de déontologie professionnelle sont des codes qui protègent d'abord les professions de leurs différents membres, entre leurs différents membres. Ce sens est toujours présent en France. Ensuite, et notamment, on le retrouvera, ça veut dire en quelque sorte, c'est équivalent à un métier. On le verra. Ensuite, il y a eu distinction peu à peu entre les métiers. C'est le troisième sens que l'on trouve dans le Robert. Les professions savantes qui exigent la connaissance des arts libéraux et non des arts mécaniques comme les métiers. Des professions qui ont du prestige, qui sont liées à des savoirs essentiels. C'est un sens que vous trouvez dans le Robert ainsi défini. Métier qui a un certain prestige par son caractère intellectuel ou artistique et par la position sociale de ceux qui l'exercent. Avocat, médecin, professeur. Vous voyez, là, le Robert ne rentre pas trop dans la sociologie. Il met directement les professeurs parmi les professions. Alors, revenons brièvement sur ces trois sens pour leur ajouter peut-être quelques connotations. Je l'avoue, moins attesté par l'étymologie. D'abord, profession de foi. Je vous l'ai dit, profession, c'est d'abord la déclaration publique de ses croyances. Et cela renvoie au serment prononcé par les compagnons, admis dans certaines corporations. Derrière ce sens ancien, on peut, en interprétant un peu, trouver un sens moderne. Les professions sont des activités qui se professent, c'est-à-dire dont les savoirs sont explicitement dits, sont oralisés, sont enseignés. Alors que les métiers peuvent tout à fait ne jamais s'enseigner. Et pendant très longtemps, ne se sont pas enseignés. L'essentiel de la formation professionnelle était une formation par expérience. Le compagnonnage en est un très bel exemple. Encore qu'il y avait les écoles du soir, les écoles du trait dans le compagnonnage. Mais arrêtons-nous un instant sur la puissance de cet acte d'explicitation orale de ses savoirs et de ses pratiques et sur ce qui est advenu aussi, sa mise par écrit. Cela amène à la fois un processus de rationalisation discursive. Car la langue, avec ses sujets qui agissent, ses verbes d'action, ses compléments d'objets sur lesquels porte l'action et ses qualificatifs, la langue ordonne le monde selon sa propre logique et donne une logique à l'action. Deuxièmement, il y a, après cet acte d'enseignement ou d'explicitation orale, il y a souvent transcription écrite. Et ceci permet un double processus d'accumulation des savoirs, de transmission intergénérationnelle, et on pourrait ajouter un autre processus de diffusion géographique de ces savoirs. Pourquoi j'ajoute la diffusion géographique ? Parce que les savoirs d'expérience, les savoirs de métier que l'on apprend par l'expérience, ce sont des savoirs incorporés. Ces savoirs incorporés, si les corps ne circulent pas, ne circulent pas. Autrement dit, si vous êtes tailleur de pierre en Auvergne, vous savez tailler la lave, vous ne saurez jamais tailler le calcaire. Mais les compagnons du Tour de France étaient astucieux. Ils ont inventé justement le Tour de France. Si bien que le tailleur de pierre qui commençait à Tours, puisque c'était la maison mère, allait ensuite à Clermont-Ferrand pour apprenait à Clermont-Ferrand à tailler la pierre de Volvic. Mais il pouvait amener les dernières manières de tailler le calcaire qu'il avait apprises à Tours. Mais c'est une limite très forte des savoirs d'expérience. Ce sont des savoirs incorporés qui sont dans les corps, ils ne sont pas ailleurs. Et il faut que les corps soient là, alors que les savoirs écrits circulent. Alors, le lieu naturel de tous ces processus de rationalisation, d'accumulation et de transmission fut très vite l'université, dont les premières... On l'oublie souvent, les premières universités se sont organisées autour de savoirs professionnels. La première université, occidentale en tout cas, ce fut Bologne, au XIe siècle, et ce sont les étudiants qui se sont regroupés pour louer les services d'un spécialiste de droit canon, si vous voulez, comme on dirait aujourd'hui. La théologie, plus tard à Paris, la deuxième université apparue, puis plus tard la médecine à Salerne, à Montpellier. Dans la conception fonctionnaliste des professions, le lien entre profession et université est si étroit que l'un des papes de la sociologie des professions fonctionnalistes, Parsons, dans l'article qu'il a consacré dans l'Encyclopédie des sciences sociales de 1968 au terme profession, la moitié de l'article est consacrée à l'histoire des universités. Donc effectivement ce savoir qui se professe, c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose par lequel on peut établir le lien avec l'université, car c'est là toutes les professions canoniques sont nées avec les universités, leur statut n'a pas changé. D'autres professions ont été inventées qui ont eu du prestige, notamment les États-Unis savent inventer des professions. Une des étapes nécessaires pour devenir une profession avec le statut particulier que les professions ont aux États-Unis, c'est d'être enseigné à l'université. Une école professionnelle, ça ne convient pas, ça doit être dans l'université, dans une école professionnelle liée à l'université. Alors maintenant, deuxième sens, profession, métier qui permet de gagner sa vie, activité qui permet de gagner sa vie. Bon, le deuxième sens, occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence, dans le Robert, c'est à peu près la même que la définition que je vous ai donnée tout à l'heure, dans le même petit repère du métier, tout genre de travail déterminé, reconnu ou toléré par la société, et dont on peut tirer ses moyens d'existence. C'est cette indistinction que manifestent nos cartes actuelles d'identité. À côté du terme profession, vous avez n'importe quelle activité. Ceci est à peu près valable sur l'Europe continentale. Ça ne l'est pas en Angleterre, ça ne l'est pas aux États-Unis. Les professions ont un statut distinct, tout à fait distinct des occupations, des métiers, si vous voulez. Troisième sens, puisqu'il faut avancer et ne pas trop se laisser saouler par les mots, profession, métier savant ayant du prestige. Le troisième sens du petit Robert. Ce troisième sens, c'est celui qui domine en Angleterre et en Amérique du Nord. Bon, ceci pourrait s'expliquer pourquoi, dans ces pays-là, d'abord en Angleterre d'ailleurs, pourquoi les professions ont eu un statut plus valorisé, pourquoi ce statut est devenu magnifique, en quelque sorte, exemplaire aux États-Unis. Je ne vais pas rentrer dans ce détail qui nous éloignerait un peu des enseignants et la formation des enseignants. Alors, pourquoi la profession est-elle fortement distinguée du métier? Pourquoi lui attribue-t-on un prestige intellectuel et social particulier? D'abord parce que ce sont des activités que les Américains appellent les « learned professions », les professions savantes, des activités qui exigent des savoirs de haut niveau, des savoirs liés à l'université. Des savoirs post-licence, si vous voulez. Ce sont des savoirs qui s'apprennent par le learning, c'est-à-dire par l'étude, parce qu'elle repose justement sur des savoirs savants professés, et non pas sur le training, c'est-à-dire l'apprentissage de savoir-faire qui deviennent, par imitation et répétition, des espèces d'automatisme. Pourquoi, ça ne veut pas dire que dans les professions, il n'y ait pas des imitations, répétitions et automatismes, et même incorporation de savoir à travers une sensibilité à l'œil, à l'oreille. Chez les enseignants, l'œil et l'oreille sont particulièrement développés, mais chez le médecin aussi, notamment l'œil, etc. Ça ne veut pas dire que ça ne s'incorpore pas, mais il n'y a pas que cela. Il y a des savoirs explicites et pas uniquement des savoirs qui peuvent s'incorporer, et qui, avec l'expérience, beaucoup de savoirs d'ailleurs, avec l'expérience s'incorporent. Pourquoi les professions ne peuvent-elles pas se contenter de ce savoir en partie routinier que l'on trouve dans les métiers, ni même du savoir plus sophistiqué que l'on trouve dans les métiers de technicien et qui s'applique à des cas relativement stables, moins routiniers, mais relativement stables. Les machines ont des comportements relativement stables. Ça ne veut pas dire qu'elles ne réagissent pas à des conditions particulières, mais c'est relativement stable. On le devine aisément, notamment pour les professions de l'humain, mais les professions ne concernent pas que les professions de l'humain, mais pour les professions de l'humain comme l'enseignement ou la médecine, chacun, en fonction de son histoire, de sa personnalité, de sa famille, reçoit l'enseignement qui lui est donné, comprend ou ne comprend pas ce qui lui est dit, colore sa maladie d'une manière particulière, individuelle. Et l'art du professionnel, l'art du médecin, c'est de voir au-delà des petits bobos qu'il y a ici et là, le syndrome, l'ensemble de symptômes qui désigne telle maladie amenant la prescription de tel traitement. De même, l'enseignant, son art devrait être, à travers un certain nombre de difficultés que rencontre un enfant à s'approprier telle ou telle notion, essayer de voir où est la difficulté et de contourner cette difficulté. Mais cette difficulté, d'une certaine manière, elle est très souvent individuel. C'est la même chose pour des professions qui peuvent être liées aux choses. Dans toutes les professions de l'humain, la justice est pareil, etc. Évidemment, l'homme, par principe, est quelqu'un, est un être qui individualise son expérience. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des tendances communes, mais il y a toujours des significations, des propres qu'il développe et qui peuvent faire obstacle à ses acquisitions, qui peuvent faire obstacle à sa santé, qui peuvent faire obstacle à son comportement social, ce qui l'amène à avoir recours à un avocat et à avoir affaire à un juge, etc. Mais c'est la même chose pour un architecte qui travaille toujours sur une sur une parcelle particulière, dans un prospect, dans un environnement particulier, en fonction de désirs d'un client qui peuvent être relativement individuels, et il doit traiter ça. C'est d'ailleurs parfois la différence que l'on fait avec l'ingénieur qui construit des ponts standards sur l'autoroute. Il a construit une fois le modèle de pont et puis après ça se reproduit. Mais même l'ingénieur, lorsqu'il construit un pont, il peut le construire en fonction du site. Et là, il fait de l'individuel. Et la première fois qu'il a construit ce pont, il a fait de l'individuel. Ensuite, il a été standardisé. Donc, on s'aperçoit que chaque fois, il faut mettre des savoirs suffisamment généraux que l'on apprend à de hauts niveaux de formation pour pouvoir les appliquer à des cas individuels et traiter ces cas individuels, reconnaître dans ces cas individuels un cas plus général, et lorsqu'on ne peut pas trouver le cas plus général, essayer d'avoir une solution créative, faire des essais-erreurs, ce que font bien sûr les enseignants, les médecins, etc. Mais ils doivent traiter le problème. Bref, le professionnel, c'est celui qui résout des problèmes complexes et individualisés en mettant en œuvre des savoirs de haut niveau et des raisonnements sophistiqués qu'il a appris à l'université. Le technicien, face au même problème, il a l'habitude que telle machine ou telle chose ne marche pas à cause de ça, il essaiera cela. Si ça ne marche pas, il sera désemparé. Il fera appel à l'ingénieur, il fera appel à quelqu'un d'autre. Il n'aura pas les moyens intellectuels, les connaissances pour essayer autre chose en direct. Parce qu'évidemment, le professionnel, c'est quelqu'un de relativement autonome qui doit essayer de résoudre le problème. Bon, il n'y arrive pas toujours et à ce moment-là, il fait appel à d'autres collègues plus experts. Mais
c'est le discours théorique.
Bon, en conclusion de ce petit itinéraire lexicographique, nous reprendrons, puisque elle préside cette séance, et quand bon petit soldat, il faut citer les chefs, une affirmation d'Anne-Marie qui implicitement mais fermement distingue métier et profession. Instruire est un métier, dit-elle dans l'article que je vous ai cité tout à l'heure, c'est-à-dire un ensemble de dispositifs pratiques et non pas un corps de savoir théorique explicitable dans un discours articulé. Ben, vous voyez, le métier est défini par opposition à la profession qui nécessite un corps de savoir théorique explicitable en un discours articulé. Avant de quitter ce terrain lexicographique, il ne faut toutefois pas oublier le terme de professionnalisation, qui est le plus récent. Alors, on était remonté au Moyen-Âge, là, en France, il est apparu en 1946, vous voyez, aux États-Unis un peu plus tôt, en 1910. Mais ça n'est pas le moins présent dans le thème qui nous intéresse. Ce terme, comme tous les termes qui ont comme suffixe « action », prolétarisation, mobilisation, indique le processus qui fait advenir l'état ou l'action manifestée par le radical du mot. La prolétarisation, ce qui vous amène à devenir prolétaire, ce dont certains courants de la sociologie ont parlé à propos des enseignants, nous n'y reviendrons pas. Bon, le terme de professionnalisation prend des sens très différents selon l'aspect auquel on l'applique. Pour ma part, dans un numéro de recherche et formation, autour des mots, j'avais distingué 5 aspects qui supportent autant de sens distincts et qui sont souvent portés par des acteurs différents. Pardon. Dans un premier temps, contentons-nous de la définition la plus simple, et nous reviendrons sur 3 aspects qui concernent directement la formation des enseignants. La définition la plus simple et la plus proche de notre thème, la professionnalisation et le processus qui permet de passer du métier à la profession. Alors, quand et comment s'est fait cette évolution, ce passage, au moins dans les mots, du métier à la profession? D'abord, il faut dire que l'adjectif, alors si on prend la famille liée à profession, l'adjectif qualificatif professionnel se rencontre depuis très longtemps et abondamment dans le monde de l'éducation. On peut prendre un seul exemple, le plus massif, l'enseignement professionnel. À vrai dire, l'enseignement professionnel, c'est le plus proche des métiers. C'est celui dont les programmes sont créés par des commissions paritaires où sont représentées les branches de métiers. Le terme de professionnel qu'on rencontre si souvent est d'autant plus fréquent qu'en fait, le terme de métier n'a pas d'adjectif direct. Et donc, on utilise le terme professionnel. L'indistinction est la même pour le terme de profession. Prenons là encore un seul exemple, le livre de Muel Dreyfus intitulé « Le métier d'éducateur », publié en 1983 dans la collection de Bourdieu, « Le sens commun ». Dès la deuxième phrase, elle déclare, je résume un peu sa phrase, « Si j'ai étudié deux professions éducatives, celle d'instituteur et celle d'éducateur spécialisé à deux périodes différentes de l'histoire, c'est qu'il s'agit, dans chacun des cas, de temps d'invention du métier. » Autrement dit, vous voyez, elle commence par profession, elle termine sa phrase par métier, il n'y a aucune différenciation. Les deux termes sont substituels. On peut penser cette situation d'indistinction et, je vous l'ai dit, fréquente, le deuxième sens de profession dans le Robert l'indique, par sa proximité avec un des sens de métier, est très fréquente en France et en Europe continentale. Mais on peut penser que cette situation d'indistinction, puisque maintenant on est à quelques 17 ans de la création des IUFM, on peut penser qu'il y a créé une inflation de termes liés à profession, professionnalisation, professionnalité, professionnalisme, etc. On peut penser que la situation a changé avec la création des IUFM. Oui et non. Non, car la loi qui a créé les IUFM fait apparaître un des termes de la famille profession, qui est professionnel, dans le syntagme formation professionnelle initiale, mais il n'a pas de sens particulier, plus précis que l'ordinaire de son sens. Oui, on peut répondre oui aussi, un peu plus tard, avec la publication du rapport Bancel, où sont apparus fortement de nouveaux mots plus spécifiques de la même famille que profession. Professionnalisation apparaît 13 fois. Professionnalité apparaît pas si souvent que ça, il apparaît une fois, mais très tôt, au deuxième paragraphe, et de manière assez magnifique, puisqu'on nous assène, dès le deuxième paragraphe, la notion de professionnalité globale, qui évidemment n'est pas définie. Au total, on a 39 occurrences des termes liés à la profession contre 8 pour le métier. Par comparaison, regardons deux articles parus à la suite du rapport Bancel dans des revues reconnues, Le Débat, le numéro 64, et Esprit, le numéro 11. Et leurs auteurs étaient, à l'époque, deux professeurs d'école normale. Pour le numéro dans Esprit, c'est l'article d'Anne-Marie sur le métier d'instruire dont je vous ai déjà parlé. Pour l'article du Débat, c'est Laurence Cornu, article intitulé « La théorie et la pratique ». Quels usages font-elles des mots de la famille profession et métier ? Alors là, j'ai un tableau que je vais le résumer parce que j'ai peur. Alors,
on a un rétro ?
Ah bon.
Oh. Il suffit d'appuyer sur le bouton.
Ah c'est oui.
Je signale pendant l'interruption que l'article, les deux articles, celui de Laurence Cornu comme le mien, viennent d'un colloque qui s'était tenu à La Rochelle et qui avait été organisé par Laurence Cornu, à l'époque professeur de, je ne sais pas comment on disait à l'époque, psychopéda, philo, en école normale, et qui s'appelait « En quoi instruire est un métier ?»
Ah.
Voilà. Donc l'ensemble des communications était sur la construction de ce qu'on appellerait l'efficacité professionnelle. Alors.
Voilà. Alors, je vais vous parler donc. Si vous regardez.
Micro.
Ah, alors, ah oui. Anne-Marie, donc.
Ça serait mieux sur le mur.
Non, non, ça va très bien. Non, non, mais ça va très bien. Ah oui, d'accord. Donc, non, non, mais ça va. Anne-Marie utilise le qualificatif professionnel dont on a dit qu'effectivement, il était aussi bien. Voilà, exactement. 8 fois. Le mot professionnalisation, 1 fois. Donc, au total, profession, de la famille profession. Ça apparaît 9 fois. Par contre, elle utilise 16 fois le terme de métier. Laurence Cornu, le qualificatif de professionnel, 7 fois. Professionnalisation, 2 fois. Professionnalisme, 1 fois. Donc, au total, 10 fois. Mais elle utilise moyennement le terme de métier, 11 fois. Si on compare cela à un texte de Michel Develay, là, on constate effectivement qu'on a une inflation des mots liés à profession. Bon, alors professionnel n'est peut-être pas le plus significatif, étant donné que c'est le qualificatif de métier, mais vous avez profession qui apparaît beaucoup, alors qu'il n'apparaissait pas chez les deux collègues précédentes. Vous avez professionnalisation qui apparaît 3 fois et professionnalité 11 fois. Et le terme de métier n'apparaît que 17 fois pour... enfin, selon le mode de calcul, 72 occurrences si on compte professionnel, 32 si on ne compte pas professionnel. Donc, Michel Develay avait été professeur d'école normale en biologie. Il ne l'était plus à l'époque. Il était dans les sciences de l'éducation. Peut-être puis-je vous faire, vous confier sous le sceau du secret une interprétation, puisque l'on est à Lyon. Michel Develay, à l'époque, travaillait avec son ami de 30 ans, Philippe Mérieux. Philippe Mérieux, à la même époque, ne faisait pas mystère d'avoir rédigé les 2 premiers chapitres, notamment celui où vous trouvez la notion de professionnalité globale, les 2 premiers chapitres du rapport Bancel. La proximité que vous voyez entre le rapport Bancel et l'écrit de Michel Develay, c'est aussi peut-être une proximité d'inspiration. D'où venait cette inspiration? Y avait-il un gang des Lyonnais, dont le chef Bancel finit par devenir recteur de Lyon, et d'où venait leur inspiration? Je peux pas dire exactement d'où venait cette inspiration. Je sais que pour avoir, par la suite, avec d'autres, participé à ce travail sur les notions de profession, de professionnel, je sais d'où viennent d'autres inspirations. Je pense que ça vient notamment de l'assimilation très tôt du langage des compétences. Mais il faudrait mener l'enquête plus loin et interroger Michel et Philippe. Voilà. En tout cas, voilà ce que l'on peut dire. En tout cas, c'était un vocabulaire relativement nouveau. C'était pas un vocabulaire nouveau en France. Ça n'était pas un vocabulaire nouveau au niveau international. Et pour ma part, si je me suis mis à travailler là-dessus, c'est très net, c'est parce que, ayant étudié la littérature internationale, notamment anglaise et américaine, ce débat sur la professionnalisation des enseignants était un débat très vif, et notamment, il y a une année relativement symptomatique, importante, l'année 1986, où deux rapports, un rapport rédigé par une commission des doyens des facultés de sciences de l'éducation américaines, le Holmes Group, et deuxièmement, un rapport fait par la fondation, financé par la fondation Carnegie, par une commission très mixte avec des économistes. Ces deux rapports préconisaient des mesures de professionnalisation distinctes, pas exactement les mêmes, mais tous les deux disaient il faut professionnaliser le métier d'enseignant, et tous deux, par professionnalisation, entendaient une évolution vers le haut, et notamment le recrutement des enseignants au niveau master, parce que les professions ont besoin de savoir, ont besoin d'un certain contact avec la recherche aussi, pour devenir des professionnels relativement créatifs en situation d'incertitude, qui est la situation des professionnels. Voilà. Bon, je ne vais pas trop développer cela, ça nous amènerait trop loin. Maintenant, je vais essayer de vous parler de, parce qu'il ne faut pas que je sois trop long, de trois aspects de la professionnalisation en formation professionnelle et qui concernent, me semble-t-il, un peu plus les IUFM. Parmi les cinq aspects que j'avais distingués pour analyser la professionnalisation, il y en a trois. La professionnalisation de la formation elle-même, la professionnalisation de la personne, du futur professionnel, et la professionnalisation des savoirs qui, me semble-t-il, touche directement la formation. La professionnalisation du groupe professionnel, et deuxièmement, la professionnalisation de l'activité, comment une activité devient plus professionnelle, moins routinière. Ça peut toucher la formation, mais c'est plus des travaux d'ordre sociologique, il me semble, qu'il vaut mieux ne pas trop, on n'a pas le temps de les aborder ici. Alors, la professionnalisation de la formation elle-même. Professionnaliser une formation, c'est la construire de manière à ce qu'elle rende apte à exercer une activité économique déterminée. Vous voyez, là, c'est très large. Après tout, ça pourrait désigner aussi des formations au niveau des lycées professionnels. Mais il se trouve quand même, si ce terme a eu tant de succès en France, professionnaliser les formations, c'est qu'on pense notamment à l'université. Bon, maintenant, le mouvement est parti. Il y a 10-15 ans, ça n'était pas encore beaucoup le cas. Il y avait relativement peu de formations professionnelles dans les universités, hors les formations professionnelles canoniques du droit ou de la médecine et de quelques masters. C'est l'un des sens donc les plus fréquents en France. Mais pour mieux saisir les effets de ce processus de professionnalisation des formations, je vais essayer de contraster deux types de formations que l'on trouve dans les universités. Vous me direz, ça vous éloigne peut-être des UFM ? Pas tellement, puisque vous allez vous retrouver dans les UFM et dans les universités, vous allez voir que sans doute ça va changer un petit peu vos perspectives et peut-être les reproches qui vous seront faits. On peut prendre trois types de critères qui concernent trois moments du processus de formation. D'abord, les dispositifs de recrutement et de sélection. Ils sont très distincts. Dans les formations générales d'université, les universités ont l'obligation d'accepter tout le monde qui a un bac. Et elles essaient parfois de contourner cela, parfois ça leur retombe sur les doigts, c'est le cas de l'université de Paris 9, Dauphine, qui plusieurs fois s'est fait prendre à ce jeu-là. Elles doivent accueillir tout le monde.
S'en fout.
Il y a quelques branches qui ont droit à un numerus clausus. D'ailleurs, après 68, il n'y avait plus de numerus clausus, mais vous pouvez encore rencontrer des médecins relativement âgés et qui s'en souviennent douloureusement. Les formations professionnelles, elles, fonctionnent avec des processus de sélection beaucoup plus nets. Et c'est nécessaire parce que pour préserver ou élever leur statut, elles doivent maintenir un contrôle important sur les entrants, en veillant notamment à leur adéquation quantitative. Il faut, les professions sont des marchés fermés. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'entrants, beaucoup plus d'entrants que de sortants. Sinon, les conditions de la concurrence s'exacerbent, et c'est ce dont peuvent vous parler les vieux médecins, qui estiment qu'ils ont été floués parce qu'ils ont eu des collègues trop proches de chez eux, ce qui a diminué leurs revenus. Il y a aussi l'adéquation qualitative, la possession de certaines caractéristiques sociales et culturelles qui contribuent à la respectabilité du groupe et évitent sa trop grande hétérogénéité. Ce contrôle social implicite, et qui ne peut guère fonctionner à partir des preuves sur table, ni se laisser supposer à partir de questions appropriées dans un dossier, se passe souvent dans les épreuves orales. Pour avoir participé à un jury de CAPES en documentation, je me suis rendu compte à quel point l'épreuve orale, une des épreuves orales, était un lieu de contrôle social. L'attitude, la manière de se tenir, l'aisance verbale, tout cela, ça compte. Et il y a des étudiants qui, par ailleurs, semblaient avoir les compétences dont on disait, on ne voit pas ces gens-là accueillir les élèves dans une documentation. C'est un contrôle social implicite, mais c'est un contrôle social réel. Et ce contrôle est fait par, notamment, des membres de la profession, puisque les jurys comprennent toujours des enseignants, par les corps d'inspection qui souvent président d'ailleurs le jury et par éventuellement des experts extérieurs. Dans les formations générales, ce contrôle social est moindre parce que les formations générales ne vous donnent pas accès à un groupe professionnel déterminé. Deuxièmement, les dispositifs de formation. Ils sont divers. Ils peuvent notamment toucher au savoir et à la socialisation de la personne, comme nous le verrons plus loin. Mais il y en a d'autres qui différencient bien les formations générales des formations professionnelles, les formations générales en université des formations professionnelles, en contexte universitaire. Ce sont les modes de regroupement des étudiants. Dans les formations professionnelles, il faut commencer à construire l'identité professionnelle. Bon, vous le savez mieux que moi, qui correspond à l'activité visée. Cela se fait d'autant mieux, sinon plus d'ailleurs, sinon mieux, par le contact entre les étudiants placés dans la même situation de construction identitaire. Ça se fait mieux que par l'action des enseignants. Enfin, ça se fait autant, en tout cas. Il faut donc des formes d'organisation qui favorisent ce contact, qui renforce cela, tant dans les modes de regroupement, c'est un fonctionnement par promotion, qui est un groupe fixe de ceux qui arrivent en même temps après avoir subi les mêmes épreuves, même parfois dans certains cas les mêmes épreuves de bizutage, d'initiation, et qui sont dans les mêmes situations et qui vont vivre les mêmes expériences de formation. Ceci crée quelque chose, un lieu de socialisation très fort. Les locaux, non seulement les modes de regroupement, mais les locaux, qui sont souvent distincts et isolés des ensembles, souvent indistincts des universités, parce qu'ils sont fréquentés par plusieurs formations. Les écoles professionnelles sont souvent bien identifiées, dans des lieux, sinon de l'université, sinon dans des bâtiments propres. Et je crois que c'est quelque chose d'important. Les activités aussi, qui sont organisées par les étudiants eux-mêmes et qui contribuent à créer un esprit de corps. Les foyers, le foyer, le journal, des groupes d'activités divers qui existe un petit peu dans les formations générales. Vous pouvez avoir l'association des étudiants d'histoire, mais c'est pas forcé. Et c'est très aléatoire, ça dépend des années, les associations d'étudiants. Là, c'est quelque chose d'important et que les institutions de formation professionnelle favorisent et ont intérêt à favoriser l'auto-organisation des étudiants. Dans les formations générales, il n'est pas question de construire une identité professionnelle, sinon l'identité provisoire d'étudiant, qui est une identité passagère. Donc toutes ces formes qui favorisent la socialisation, notamment entre pairs, qui est toujours très importante, toutes ces formes sont faibles. Et à vrai dire, le modèle de l'université, au départ, correspond à un modèle très individualiste. L'université, c'était le lieu où on venait poursuivre un projet de culture personnelle et prendre entre les cours. Alors, maintenant, évidemment, l'université allemande et l'université anglaise correspondent assez bien à cela. L'université française aussi a assez bien correspondu à cela. Maintenant, malgré tout, les formations sont plus encadrées et vous êtes obligé de suivre un certain nombre d'unités précises. Vous n'avez pas le choix d'un projet entièrement libre comme ce fut le cas jadis. Troisième critère concernant ce problème, les modes d'attribution et de reconnaissance sociale des diplômes. Bon, il faut peut-être que
active un peu, mais oui. Ça va.
Bon, ils diffèrent fortement au moins sur un point. Les formations générales, que ce soit dans les disciplines que vous connaissez, les disciplines d'enseignement, que ce soit dans d'autres disciplines, les formations générales sont intro-référencées, c'est-à-dire définies essentiellement par les enseignants-chercheurs qui construisent et délivrent les formations. Alors vous me direz, ah non, attention, il y a une habilitation périodique des programmes par le ministère. Mais quels sont les experts qui donnent leurs avis que cosigne le ministère s'il n'y a pas de difficultés juridiques? Ce sont précisément des universitaires, des membres de la corporation. Les formations professionnelles, elles, sont extéro-référencées. C'est-à-dire qu'elles se réfèrent à une activité, l'exercice de la profession, qui s'effectue et se gouverne à l'extérieur de l'université. D'ailleurs, si les formations professionnelles ont pour but de rendre apte à exercer une activité déterminée, qui peut définir puis certifier en fin de formation cette aptitude et son acquisition? Est-ce que ce sont les seuls formateurs? Contrairement à ce qui se passe pour les formations générales, où ce sont bien les seuls formateurs, les universitaires, et dans le cas des formations professionnelles, il faut tenir compte de ceux qui connaissent le plus concrètement l'activité et ses besoins, c'est-à-dire les professionnels eux-mêmes, mais aussi ceux qui l'administrent, c'est-à-dire les employeurs, les inspecteurs et les autres et d'autres administrateurs. Il y a même des savoirs, ceux de la pratique réelle, que les praticiens, d'une certaine manière, sont seuls à détenir. Bref.
Le métier,
voilà. Mais le métier, c'est précisément ce qui échappe en bonne partie à la formation. Voilà. Donc, il faut, dans les formations professionnelles, on est beaucoup moins libre que dans les formations générales, lorsqu'on est formateur. On est tenu par cette référence extérieure à une activité. La qualité de la formation et des produits formés, en quelque sorte, des étudiants formés, se jugera à l'exercice qu'ils font. La qualité des formations générales, elle peut se juger d'une certaine manière au concours pour les formations d'enseignants et c'est une manière de faire, mais si vous voulez, même les concours restent... Non, on ne peut pas dire que les concours soient entièrement déterminés par les universitaires, mais en fait, de toute façon, c'est l'étape finale de la formation. Toutes les étapes antérieures, d'une certaine manière, sont faites entièrement par les universitaires, et la finalité des universitaires, on ne peut pas dire dans les formations que ce soit nécessairement, ça dépend des disciplines, mais que ce soit nécessairement le concours d'enseignants. À vrai dire, leur finalité, assez souvent, c'est la profession d'enseignant-chercheur et non pas la profession d'enseignant. Les meilleurs étudiants, ils essaieront de les mettre à gauche pour
leurs écoles doctorales.
Voilà. En conclusion, sur ces trois critères, les UFM, comme d'ailleurs les écoles normales qui les ont précédées, apparaissent comme très largement professionnalisées par rapport à toutes ces formations, notamment les formations générales que l'on rencontre dans les universités, et y compris par rapport au master nouveau dont on nous parlera cet après-midi et demain. Alors maintenant, la professionnalisation des personnes qui exercent l'activité. Dans le rapport Bancel, comme dans les UFM, on parle de professionnalisation des stagiaires, considérés à l'époque du rapport, en tout cas, comme une phase propre aux IUFM dans un processus de professionnalisation envisagé en trois étapes. Il y aurait la sensibilisation des étudiants au métier qui se ferait en université, la professionnalisation des stagiaires qui se ferait en IUFM et la formation continue. Le tout, ajoutait Bancel, devant être conçu comme un tout cohérent. Là, on le voit, l'objet sur lequel porte le processus de professionnalisation est explicitement la personne du stagiaire, dans l'expérience directe qu'elle fait de l'exercice professionnel, en situation aménagée évidemment, et à laquelle elle doit s'adapter. En fait, derrière cela est désigné un double processus d'acquisition, celui des savoirs, savoir-faire, savoir-être professionnel en situation réelle, mais aussi celui, mais vous le savez, c'est un truisme que je vous dis, l'acquisition d'une identité professionnelle qui se construit progressivement par identification au rôle professionnel. À vrai dire, cette phase de professionnalisation de la personne, moi je trouve qu'il y a un meilleur mot pour le dire, c'est socialisation professionnelle. Qu'un sociologue des professions définissait ainsi, dans une annexe spéciale de l'ouvrage qu'il avait dirigé sur les étudiants en médecine en 1947, Merton, la socialisation, processus par lequel les gens acquièrent sélectivement les valeurs, attitudes, intérêts, capacités et savoirs, bref, la culture qui accourt dans les groupes dont ils sont ou cherchent à devenir membres. Et un autre grand sociologue des professions, Hughes, qui avait une conception assez proche, insistait plus sur le produit d'une telle socialisation, l'identité professionnelle. Il concevait en effet la socialisation professionnelle à la fois comme une initiation au sens ethnologique à la culture professionnelle et comme une conversion au sens religieux de l'individu à une nouvelle conception de soi et du monde, bref, à une nouvelle identité. Il a d'ailleurs décrit, notamment pour les infirmières, ce processus de conversion de soi lorsqu'on passe de l'autre côté de la barrière, lorsqu'on passe de l'autre côté du bureau, comment les perceptions changent et comment on a des difficultés à changer ces perceptions. Bon, socialisation professionnelle et formation ne sont pas équivalentes. La socialisation professionnelle, la formation est un processus institutionnalisé et explicite d'acquisition. La socialisation professionnelle est un processus souvent informel d'adaptation, qui dure beaucoup plus longtemps, au moins pendant les premières années d'exercice professionnel, et même d'une certaine manière pendant toute sa vie, selon au moins, en tout cas, certains sociologues interactionnistes de l'école de Chicago, comme Becker, qui a travaillé sur les enseignants d'ailleurs. La formation professionnelle initiale représente cependant l'un des moments où interviennent les changements les plus importants et où peuvent être mis en œuvre des dispositifs spécifiques de socialisation. En effet, celle-ci naît des contacts avec les membres du groupe dont on veut devenir membre, et elle peut être renforcée par des dispositifs. Lorsque la formation favorise ces contacts. On pense bien sûr aux différentes formes de stages suivis entre le futur enseignant et les enseignants expérimentés. Vous savez à quel point les maîtres de stage peuvent être importants dans l'esprit de certains stagiaires. On pense aussi à certaines modalités organisationnelles de la formation initiale. Bon, je vous ai parlé du fonctionnement en promotion. Il y a aussi certaines modalités institutionnelles. Comme jadis, les écoles normales, c'était des instances très puissantes de socialisation. Toutes les institutions, là, Dubé a raison, lorsqu'il parle de l'affaiblissement des institutions, beaucoup d'institutions du 19e et du début du 20e siècle étaient des instances de socialisation très profondes. Les écoles normales l'étaient. Il est vrai que les procédures utilisées étaient des procédures assez fortes. Hein. Empruntées à l'Église, c'était les séminaires laïques avec la clôture qui intensifiait forcément les relations entre les élèves. Vous étiez toujours entre vous. L'organisation du temps. L'importance du directeur qui était une figure identificatoire et morale, souvent c'est lui qui faisait les cours de morale. Les écoles normales ont été la tenue aussi, l'uniforme. L'uniforme est un facteur d'identité puissant. D'avoir eu l'expérience de l'armée, de voir les gens arriver pour leur premier jour de service militaire. Ils sont très distincts. Le deuxième jour, après être passés chez le coiffeur et avoir laissé leurs vêtements, ils sont beaucoup plus semblables et les liens vont s'établir plus fortement et indépendamment des distinctions précédentes. Des distinctions sociales que portaient les vêtements, les manières d'être, qui sont un peu atténuées. Bon, je passe. Là aussi, on peut dire que les IUFM sont assez largement professionnalisés sur le plan de la professionnalisation ou de la socialisation des personnes. Ils assument assez largement cette fonction de socialisation des personnes. Le dernier point que je ne vais pas beaucoup développer, mais qui est pourtant le plus difficile et peut-être le plus dangereux, qui est la professionnalisation des savoirs. Les savoirs jouent un rôle central, en tout cas dans la conception fonctionnaliste des professions. Et je vous l'ai dit, en forçant un peu l'étymologie, on peut dire qu'une profession est une activité dont les savoirs se professent, s'explicitent, se transmettent par déclaration publique. Et non par apprentissage imitatif et relativement mystérieux, comme c'est le cas dans les métiers. Good, qui était un sociologue fonctionnaliste, un élève de Parsons, a détaillé les caractéristiques que devaient posséder les savoirs professionnels pour contribuer à la professionnalisation de l'activité. Ils doivent être relativement abstraits et organisés en un code codifié de principes. Ils doivent être applicables aux problèmes concrets. Une profession, c'est d'abord une activité qui doit solutionner des problèmes concrets, une catégorie de problèmes concrets. Ils doivent être crédibles quant à leur efficacité, ça ne veut pas dire qu'ils soient réellement efficaces, mais il y a toujours une efficacité symbolique que l'on peut espérer, et en tout cas il y a une efficacité statutaire pour vous à ce que les gens vous croient. Ils doivent être en partie créés, organisés et transmis, et en cas de conflit, arbitré, pas en dernière instance, par la profession elle-même. Et notamment, par ses enseignants-chercheurs. Mais ça peut être aussi dans le cas de professions ou de semi-professions plus administrées, comme l'est l'enseignement, par les corps d'inspection. Ils doivent être enfin suffisamment sophistiqués pour ne pas être aisément accessibles à l'homme ordinaire. Il ne faut pas écrire ces ordonnances dans le langage le plus clair. Sinon,
mais ça, c'est réussi, on peut dire.
Oui, il faut déjà mal écrire, c'est déjà mieux. Et ça, les médecins y arrivent très bien. Bon.
On a fait des progrès de ce côté.
Alors, à la suite de Pernoud, bon, ça vous connaissez la distinction de Pernoud, des deux types de savoirs mis en œuvre dans l'activité enseignant, les savoirs enseignés, les disciplines, et les savoirs pour enseigner, pédagogie didactique, connaissance du système éducatif. Les savoirs disciplinaires sont bien sûr essentiels, mais à eux seuls, ils ne répondent pas aux critères de Good. Ils ne sont pas créés et encore moins arbitrés par les enseignants du primaire et du secondaire, mais par les chercheurs et les concepteurs de programmes. Ils sont pour certains assez largement accessibles à l'homme ordinaire parce qu'ils ont été enseignants. En tout cas, c'est le cas pour le primaire et même pour le secondaire. Bref, c'est sur les savoirs pour enseigner, qui sont spécifiques aux enseignants, que repose en bonne partie leur professionnalisation. Mais quels sont-ils ? Alors, en gros, il y a eu deux démarches mises en œuvre pour codifier, pour lister ces savoirs à enseigner. L'une, plus ou moins empirique, qui est la construction de bases de connaissances. Je ne vais pas détailler, éventuellement, si vous avez des questions, je le ferai, les quelques tentatives qui ont été faites depuis celle de Schulman. Voilà. Oh, bon, ça, je vais... l'autre, plus normative et finalisée, c'est la construction de référentiels de compétences. Et là aussi, je ne vais pas détailler cela, puisque Gilles va détailler une expérience. Il va vous en parler mieux que moi, ce qui va me permettre d'être un petit peu plus rapide et vous dire... qu'en matière de savoir, il y a un danger que vous pouvez rencontrer maintenant que vous allez être universitarisé. Enfin, c'est un danger relatif. Il faut savoir que les universités fonctionnent avec un grand respect des disciplines et entraînent un processus de disciplinarisation. Et même lorsque des universités se sont attaquées à la formation professionnelle dans un certain secteur d'activité qui jusque-là ne donnait pas lieu à un enseignement universitaire, leur entreprise a été de créer des disciplines, ça se voit, bon, évidemment pour les disciplines canoniques comme la médecine, un ensemble de disciplines à l'intérieur de ça. Ça s'est fait aussi chez les enseignants. Lorsque, en France, l'expérience d'universitarisation est récente, et même, on pourrait dire, très récente, parce que les UFM ne sont qu'une semi-universitarisation, compte tenu du statut de ces instituts. Il y a eu, précédemment, aux États-Unis, depuis... ça s'est à peu près terminé avant la Deuxième Guerre mondiale, mais au Québec et en Angleterre, dans les années 60, au milieu des années 60, il y a eu des expériences d'universitarisation. Si on prend ces deux derniers exemples, en Angleterre, lorsqu'il y a eu la création de la licence d'éducation, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un processus de disciplinarisation, c'est-à-dire que la School of Education de l'Université de Londres a formé, a réussi à mettre la main sur l'enseignement des principes d'éducation. Et qu'est-ce qui a été enseigné ? C'est essentiellement la sociologie de l'éducation, l'histoire de l'éducation, la psychologie et la philosophie de l'éducation. Ça a été une époque merveilleuse pour ces disciplines. Et pour les plus récentes, enfin les plus récentes, non, c'est pas les plus récentes, mais pour certaines disciplines qui n'étaient pas très développées au Royaume-Uni, ça a été une époque très créative. Vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle sociologie de l'éducation anglaise. Elle est née à ce moment-là. Intellectuellement, ça a été très producteur. Professionnellement, ça a été quasiment une catastrophe. C'est-à-dire que ça s'est fait... La licence d'éducation a été créée en 63. Dès 72, il y a eu un rapport qui a dénoncé le fait que les enseignants formés avec ces méthodes Bon, il se débrouillait très mal en classe. La référence des formateurs, avait dit un des sociologues qui analysait ça, la référence des formateurs, ça n'était plus le maître, c'était le maître de conférence. En fait, ce que l'on enseignait, c'était une discipline universitaire. Alors, il y a eu peu à peu des tentatives de remodelage de cela, c'est-à-dire que les enseignements n'étaient plus fixés sur les disciplines, mais les disciplines étaient appelées à contribuer à des thèmes concernant les enseignants. L'enseignement en banlieue, on faisait appel aux sociologues, aux psychologues, aux philosophes pour les aspects moraux, etc. Hop, ils intervenaient sur les thèmes. Il y a eu d'autres évolutions, c'est-à-dire de plus en plus un enseignement directement centré sur l'établissement scolaire. Et il y a eu aussi une autre évolution qui n'est pas survenue en France, mais il faut faire attention. Il y a eu l'exigence que les formateurs d'enseignants soient capables de faire la preuve tous les 5 ans et à faire la preuve tous les 5 ans qu'ils sont capables de faire le métier qu'ils enseignent. C'est quelque chose d'assez redoutable, mais d'un tel bon sens que c'est difficilement résistible. Voilà. Bon, donc il y a des dangers à de l'universitarisation. Les dangers, c'est précisément la disciplinarisation, c'est-à-dire prendre pour finalité de son enseignement la discipline, le savoir intellectuel que l'on construit beaucoup plus que l'action professionnelle que l'on essaie de transmettre, auquel on prépare les étudiants. Ce danger-là, je pense que bon. Il a été documenté un certain nombre de fois. Bon, il y a eu un bouquin relativement récent de Schnevely et Hofstetter sur la Suisse qui raconte aussi les processus. Alors, avec un département emblématique des sciences de l'éducation, notamment, puisqu'il travaille sur toute la Suisse, mais évidemment, il n'oublie pas Genève, sur les débats à Genève. Ce danger-là est maintenant relativement documenté, et je ne pense pas que vous risquez d'y tomber. En tout cas, l'autre... ce n'est pas un danger, mais c'est un reproche que vous risquez d'avoir lorsque vous serez dans les universités de la part de un nouveau partenaire universitaire. Il risque de vous trouver trop professionnel, trop professionnalisé. Mais je crois que c'est un reproche auquel il faut savoir résister, et l'université elle-même va être obligée de s'y mettre dans un certain nombre de ses formations.